Conversation perchée, un drôle d'objet radiophonique inventé par la grenouille et le merlan, scène nationale à Marseille. Une conversation entre artistes, chercheurs, acteurs de la vie sociale et culturelle, et puis habitants aussi. Une émission de radio de laquelle on a évacué tous les micros, tous sauf un, sur une perche, destinée à se faire oublier. Un échange sur une question de société, et aujourd'hui, cette question, c'est la ville. Regard croisé sur l'urbain. L'urbain, non pas tant comme terre à bâtir que comme terre des hommes, terrain d'aventure, un espace qui, pour une fois et pour l'heure qui suit, va être un espace de débat et de concertation. Et pour en débattre, justement, autour de cette table, pas d'urbanistes, pour une fois, et non. En revanche, quelques citadins que j'invite peut-être pour commencer cette conversation perchée à se présenter eux-mêmes.
Je suis Nathalie Marteau et je dirige le Merlan à Marseille.
Je suis Yves de Grise, membre de la Compagnie Berlin.
Bonjour, Agnès Kayser de l'association Collineo Assonance, association de protection à l'environnement sur Marseille.
Bonjour, Guillaume Callas, architecte sur Marseille et vice-président de l'association Arcade, de la Galerie des Grands Bains Douches.
Boris Grésillon, géographe et enseignant-chercheur à l'Université de Provence et habitant à Marseille.
Jean-Claude Groussard, habitant de Marseille et ancien directeur de l'école d'architecture de Marseille.
Et va nous rejoindre dans quelques instants Fatima Mostefaoui, qui est présidente de la section des Flamands de la Confédération des Familles. Elle est encore pour quelques minutes en réunion, mais elle va nous rejoindre dans quelques instants. Iqaluit, ville des glaces, capitale de la nation Inuit. Bonanza, microville du Colorado aux États-Unis. Moscou, en Russie. Des villes que le collectif Berlin ont explorées nous restituent sous forme d'installations théâtrales et filmiques. Une série de propositions qui s'inscrivent dans un cycle holocène. Alors un petit tour sur Wikipédia. Et on apprend que l'Holocène est une période qui a suivi la dernière ère glaciaire, période au cours de laquelle ont disparu les mastodontes et les grands paresseux, mais qui, en revanche, a connu le développement fulgurant d'un petit singe savant, nous, les humains. Alors, il n'y avait peut-être pas de ville à l'époque de l'Holocène, ou alors on ne sait pas très bien. Ça dépend en fait de ce qu'on appelle une ville, et peut-être on pourrait commencer par cette question, si vous voulez bien. Au fait, c'est quoi une ville, Boris?
Je ne vais pas donner de définition géographique classique, parce que c'est un peu tôt pour ça, et puis le cadre ne s'y prête pas. Mais quand on parle de ville, je pense qu'on est obligé de commencer par dire que c'est d'abord une agglomération. C'est une agglomération d'hommes et d'activités. Et au-delà de ça, une ville, c'est un organisme vivant. Moi, je tiens beaucoup à cette définition, parce que dans cette expression d'organisme vivant, il y a l'idée de dynamique. Et une ville, c'est ça, en fait. C'est un organisme qui n'est jamais figé. C'est une entité, en fait, qui regroupe des hommes et des activités, qui a toujours une histoire, plus ou moins longue, et qui est toujours en évolution. Donc même quand on parle de ville figée ou de ville muséifiée, voire de ville pétrifiée, en fait, on oublie qu'il y a tout simplement des gens qui y vivent, et par cette seule fonction de mise en relation d'habitants au sein d'un organisme qu'on appelle la ville, eh bien, la ville, quelle qu'elle soit, est toujours en évolution. C'est comme ça que je la définirais.
Une autre définition de la ville ou une autre façon de la percevoir?
Guillaume.
Non, c'est ce que j'allais dire, Guillaume.
La ville, c'est aussi comment juger et décider de notre façon d'habiter le territoire. C'est effectivement un organisme, comme tu l'as bien décrit, un organisme vivant en évolution qui n'ont pas une forme d'ailleurs, c'est une formation en genèse et dans laquelle on doit intervenir. Et j'ajouterai en plus de ce que tu as dit la notion de matière, parce qu'on travaille sur une matière urbaine. Qui définit finalement le paysage qu'on perçoit et surtout quand on intervient dans la ville, on intervient à un moment donné et la ville d'il y a un siècle, ça n'a rien à voir avec la ville dans laquelle on intervient aujourd'hui. Et donc aujourd'hui on intervient dans des contextes qui sont très spécifiques et qu'il faut prendre à mon sens un à un parce que chaque contexte est vraiment différent. Et donc, du coup, voilà, c'est cette complexité-là aujourd'hui dans laquelle on doit porter des regards. Et au plus ces regards sont interdisciplinaires, au plus ils peuvent enrichir le débat aujourd'hui de la problématique urbaine.
C'est l'idée, en tout cas, de cette conversation, justement. Alors, est-ce qu'il vous semble qu'à propos de ville, il y aurait deux critères qui permettraient de l'identifier, outre ceux que vous venez d'évoquer, notamment autour de son organicité, le fait qu'elle est vivante? Est-ce qu'on peut dire qu'une ville, elle est décrite par sa densité? C'est quand même un lieu dans lequel il y a une certaine densité de population. Et puis, sa diversité aussi. Et on voit apparaître là la notion de culture au travers de cette diversité. Densité de population et diversité de population, pour vous, c'est quelque chose qui représente la ville, qui signe la ville?
Oui, complètement.
Boris?
Complètement, oui. C'est deux termes qu'on voit apparaître régulièrement pour définir la ville. C'est deux termes qui sont tout à fait justes. Une ville, c'est ça. C'est d'abord, comme je disais, une agglomération humaine avec des densités plus ou moins fortes. Il y a des villes peu denses. Berlin, que je connais bien, est une ville peu dense par rapport à Paris, par exemple. Il y a des villes extrêmement denses, au contraire. Et puis, la diversité, ben oui, c'est ce qui fait la ville. Il y a la diversité des habitants, la diversité de leur statut, la diversité des fonctions urbaines, la diversité des paysages urbains. C'est vraiment, je pense, le maître mot de ce qui définit la ville, à mon sens.
Diversité, c'est l'indication implicite donc d'un creuset de culture au pluriel. Peut-être justement sur cette idée de géographie et de culture, comment la géographie commence à aborder la notion de culture, et précisément c'est un travail que tu réalises, Boris, sur la géographie culturelle. Alors peut-être quelques mots pour présenter ce nouvel élément, ce nouveau champ d'investigation de la géographie.
Oui, c'est effectivement
un nouveau
champ de la géographie, en tout cas en France, depuis, enfin nouveau, si quand même, disons, il a maintenant une vingtaine d'années, sachant qu'à l'origine, la géographie ne s'occupait pas du tout de culture. Hein. Traditionnellement, la géographie a deux pendants, la géographie dite physique et la géographie dite humaine, et dans la partie humaine de la géographie, il n'y a encore pas si longtemps, eh ben on s'occupait des villes, par exemple, ça s'appelait géographie urbaine, des campagnes, ça s'appelait géographie rurale, des régions, ça s'appelait géographie régionale, et puis la culture n'existait pas. Bien sûr, géographie économique et sociale, mais la culture n'existait pas, on l'avait oubliée. Et puis, il y a une vingtaine d'années, bon, je suis pas dans un mouvement assez important qu'on appelle le tournant culturel, le cultural turn, qui est arrivé en fait des États-Unis, et du monde anglo-saxon, la géographie s'est dit, mais bon sang, il y a quand même un objet culture là qui nous embête un peu parce qu'il produit des lieux. Or, la géographie, quand même, a vocation à étudier, un peu bêtement, si j'ose dire, dans un premier temps, les lieux à la surface de la Terre. Et à partir du moment où la culture s'incarne dans des lieux culturels, aussi divers soient-ils, là aussi, on retrouve la fameuse diversité qui colle bien aussi à la définition de la culture, c'est-à-dire des théâtres. Ici, nous sommes dans un théâtre en plus un peu particulier, des opéras, mais aussi des salles de concert, mais aussi des clubs underground, comme moi j'ai pu étudier par exemple à Berlin. Enfin, la culture dans toute sa diversité. À partir du moment où elle s'incarne donc dans des lieux, la géographie, j'allais dire, est en droit, et même mieux que ça, le devoir de s'en préoccuper. Et c'est en partant simplement de ce constat que je me suis dit, après tout, dans des villes comme Berlin, où j'ai eu la chance d'habiter pendant 7 ans, ou maintenant dans une ville comme Marseille, ou dans d'autres villes évidemment aussi, parlons-en de ces lieux d'art. Investissons-les en tant que géographe, intéressé par l'art évidemment, je pense que c'est quand même une condition sine qua non.
Géographie culturelle, géographie des lieux de culture, recensement des lieux de culture dans la ville et positionnement sur sa carte, ça c'est un aspect qui est intéressant. Mais on saurait réduire la culture aux lieux de culture dans la ville. C'est en même temps une forme de cartographie un peu limitée. Donc géographie culturelle, géographie de la culture, après tout ça suppose de définir ce mot de culture. Juste un tour de table comme ça pour voir la culture, c'est quoi? Nathalie?
Ah, j'étais intéressée d'entendre les réponses des mes camarades. La culture, pour quelqu'un qui a ma fonction de diriger un théâtre, c'est forcément un objet d'intérêt. Et tout le monde sait qu'il y a deux manières d'aborder la culture. Il y a la définition de la culture peut-être plus étroite, qui est associée à l'art et à une certaine conception de l'art et de la culture basée sur l'excellence. et puis les classifications, la grande culture, la culture noble et la culture populaire. Et donc, et la deuxième manière d'appréhender, elle est beaucoup plus large, elle est anthropologique. Et dans ma profession, il faut bien reconnaître que historiquement, c'est plutôt la première définition qui a permis, oui, et qui a présupposé les grands principes de Malraux et de ce qui est notre politique culturelle, on va dire. Et c'est vrai que je pense qu'on a une époque, un tournant, où de plus en plus de gens commencent à se dire qu'il est important d'élargir cette notion de la culture et de parler des cultures. Et ça, c'est quelque chose qui, en France, a encore du mal, je pense, à arriver. Mais dans les notions, par exemple, du développement durable et le mouvement altermondialiste, on voit bien que... Et même l'UNESCO a révisé sa notion de la culture. Donc là où on est placé, dans une ville comme Marseille, dans ses quartiers, il est clair que, pour reprendre votre expression à tous les deux, de diversité, mais je pense qu'il y a, là, autant il y a une diversité urbaine, de territoires comme à Marseille, et la diversité culturelle, on doit en tenir compte.
Toujours sur cette idée de culture, peut-être si d'autres perceptions se font jour, peut-être...
J'aimerais revenir un petit peu sur, sur la culture, bien sûr, mais sur la notion de ville. C'est quoi la ville ? On n'a pas tout à fait dit que ce qui apparaissait le plus dans une ville, quand on arrive dans une ville... Ce n'est pas l'agglomération des hommes, des femmes, mais c'est ce que ces hommes et ces femmes ont fait. C'est-à-dire, ces hommes et ces femmes habitent dans des architectures et dans des lieux construits. Et ce qui apparaît immédiatement dans une ville, quand on arrive dans une ville, c'est d'abord le bâti. C'est le bâti, ce sont les immeubles, ce sont les maisons, c'est l'ensemble de ces immeubles et de ces maisons qui constituent un environnement urbain dans lequel les gens vivent. Je voulais simplement rajouter cela parce que ça n'a peut-être pas suffisamment été dit. Et les quartiers de ville, ou ce qu'on appelle les centres-villes, les quartiers périphériques, etc., sont aussi caractérisés par des formes de bâti différents. On n'apprécie pas de la même manière un centre-ville historique et une banlieue construite avec des bars et des tours. Ce sont des modes de vie extrêmement différents, qui sont aussi parfois le reflet de certaines cultures des personnes qui habitent, volontairement ou involontairement, d'ailleurs. Voilà ce que je voulais ajouter sur...
Jean-Claude Groussard nous rappelle l'importance, évidemment, ancien directeur d'une école d'architecture, nous rappelle l'importance de l'architecture dans la ville, nous qui étions partis tout de suite vers l'humain et la culture. Peut-être oui, Fatima Mostefaoui qui vient de nous rejoindre à l'instant, merci de nous rejoindre. Peut-être un mot, on était en train de parler de qu'est-ce qui fait culture, c'est quoi la culture d'en haut. Pour vous, qu'est-ce qui fait culture dans la ville ?
Dans la ville ?
Dans la ville.
Dans la ville. La culture, c'est un théâtre, un cinéma, une école de musique, un conservatoire. Je pense que c'est ça qui fait la culture dans nos quartiers. Et ça, dans nos quartiers, on manque de ça. Moi, je connais le théâtre du Merlan parce que j'ai été dans les écoles, à l'école des Flamands et à Pythéas. Donc à l'époque, on nous envoyait au théâtre du Merlan, soit pour faire une pièce, ou soit pour assister à un spectacle. Aujourd'hui, dans nos quartiers, la culture, le théâtre du Merlan, il est banalisé. Donc moi, j'ai l'impression, et c'est mon avis personnel, qu'on n'a plus de culture dans nos quartiers. Et que si après, parce que moi, je m'occupe de la rénovation urbaine des Flamands, donc je me dis que si on pourrait penser, il y a des architectes avec nous, ils pourraient penser, ou des urbanistes, qui pourraient penser à éclaircir, plus mettre en évidence un théâtre, et ce que les gens puissent venir volontiers, et surtout c'est le financement. Et je crois qu'aujourd'hui dans nos quartiers, on n'a plus cette culture. Parce que pour moi, la culture est importante, parce que c'est une ouverture d'esprit vers l'autre, et c'est un rattachement à sa ville. Parce que si on n'a pas la culture, on ne peut pas aborder l'autre facilement.
Boris Grésillon.
Oui, je vais tout à fait dans ce sens aussi. Je rejoins ce qu'avait dit Nathalie Marteau à propos des deux acceptions très différentes du terme de culture. L'une élitiste, on va dire, et l'autre anthropologique. Mais au-delà, je partage ce qui vient d'être dit et qui me paraît essentiel, à savoir la culture au sens d'ouverture d'esprit. Et ça me fait penser à une expression que j'ai reprise, d'ailleurs, finalement, je la trouvais excellente, que j'ai entendu chez vous, donc à Radio Grenoble, dans une émission qui s'appelait Marseille Son Nord. Donc on a capté des sons du nord, du quartier nord de Marseille. Et justement, on posait la question à des habitants, comme ça, rencontrés dans la rue, c'est quoi pour vous la culture? Et l'un, un jeune, bon, c'est un peu gratté la tête, parce que la question n'est pas évidente, et puis il a répondu spontanément quand même, la culture, c'est ce qui agrandit le cerveau. Et en fait, j'ai trouvé cette définition excellente. Donc je l'ai reprise, y compris dans mes travaux, puis je trouve que ça en dit long sur quand même cette fonction essentielle de la culture, d'ouverture d'esprit et d'élévation de l'esprit.
La culture et ses lieux, lieux de culture dans la ville, comment on peut les recenser, comment on peut les voir, les percevoir, les cartographier. On est bien d'accord en même temps que ces lieux de culture ne représentent pas la culture, l'ensemble des pratiques qui font la culture et qui dépassent très largement la production des artistes ou ce que montrent les lieux culturels. Comment représenter des espaces de créativité dans la ville et comment les y faire évoluer? Alors peut-être par rapport à ça, des propositions d'une culture nomade dans la ville, d'une culture en mouvement dans la ville. C'est notamment un des aspects du projet archiste, Guillaume Callas, peut-être justement sur cette place mouvante et émouvante de la culture dans la ville.
Alors oui, tout à fait, la culture, ça pose la question de où est-ce que se situent les lieux de culture aujourd'hui, à la disposition de qui ils sont. C'est vrai que nous, avec le projet archiste qu'on met en place avec l'association Arcade, on essaye de créer des glissements entre les disciplines que sont l'art, l'architecture, le paysage et l'urbanisme, dans le but de favoriser les regards et les croisements des regards. Et pour ça, c'est vrai qu'on met en place, comme beaucoup d'autres associations le font, des balades urbaines qui vont se confronter directement au territoire, parce que c'est sans flâner, sans arpenter le territoire, il est difficile de cerner réellement où il peut y avoir des problèmes, où il y a contraintes et où est-ce qu'il y a liberté. Et pour revenir à la culture, nous, on a un troisième volet dans le projet Archiste qui est l'installation de galeries mobiles, donc qui sont des mises en place, si vous voulez, de conteneurs qui seront customisés par des artistes, qui seront à la fois les QG pour le départ des balades qu'on propose, et à la fois des lieux d'exposition et d'ateliers pour amener une certaine culture, une certaine programmation culturelle dans certains quartiers. Donc là, pour 2011, on va s'installer dans le 11e et 10e arrondissement dans la vallée de Luvonne. Et donc du coup, on va proposer toute une programmation autour de ces disciplines-là, à la fois pour montrer ces disciplines-là aux habitants des quartiers, parce que c'est vrai que l'architecture, l'art, le paysage sont des disciplines qui ne sont pas forcément connues, qu'on n'apprend pas vraiment, on va dire, dans l'enseignement général, et qui sont pourtant très intéressantes et très enrichissantes, non seulement pour comprendre notre environnement et le milieu dans lequel on vit, mais aussi pour dire que c'est accessible à beaucoup de gens. Et donc du coup, il faut montrer que c'est des disciplines qui sont accessibles. Donc c'est une manière aussi de montrer la culture, que de dire que les choses sont parfois facilement accessibles et qu'il suffit parfois de regarder, d'observer. Et nous, notre rôle là-dedans, c'est de donner certaines armes qui vont permettre aux gens de mieux cerner leur environnement et donc du coup de mieux pouvoir l'apprécier et de mieux pouvoir, on va dire, exprimer leur mécontentement ou au contraire ce qui les satisfait dans leur environnement urbain, et donc il y a un lien directement avec les concertations publiques, parce que du coup ils auront plus de facilité peut-être à s'exprimer via pas seulement la parole mais aussi via l'art, parce que dans les galeries, nous, on espère pouvoir mettre en place des ateliers où les gens pourront s'exprimer en utilisant le croquis, le dessin, la sculpture ou la photo, voilà.
Comment est-ce que vous choisissez les lieux dans lesquels vous allez implanter ces containers, ces galeries mobiles? Selon quels critères les mettre ici ou là dans la ville?
Alors ça, c'est une question qui est un peu plus compliquée parce que on aurait envie d'en mettre partout, notamment à Marseille où beaucoup de lieux culturels sont très centralisés, on va dire. Et dès qu'on veut satelliser quelque chose, le territoire est très vaste et c'est très compliqué de dire on va le mettre là ou là. Donc en fait là, on rentre dans une logique qui est plus de cohésion urbaine où il y a déjà des enjeux politiques qui sont mis en place et dans lesquels on peut intervenir dans un champ d'action politique sur une zone qui est souvent des zones délaissées parce que c'est là qu'on doit intervenir à mon avis en amont pour définir un peu où est-ce qu'il peut y avoir des interventions à faire et là où c'est intéressant d'intervenir et où notre regard justement multiple peut être intéressant et donc donc c'est vrai que derrière, là, on a été plus soutenu et appuyé pour aller s'installer aujourd'hui dans le secteur du 10e et 11e arrondissement, parce que derrière, on est appuyé pour pouvoir le faire.
Il y a une politique culturelle qui veut
que vous alliez là. Exactement. Et urbaine, oui, tout à fait.
Jean-Claude Broussard.
Je voudrais intervenir sur le problème qui vient d'être... Enfin, le projet qui vient d'être...
Un tout petit peu plus fort, oui, s'il vous plaît.
Le projet qui vient d'être signalé. Galerie mobile, conteneur customisé, apporté dans les quartiers l'art et la culture au travers l'architecture, le paysage et des formes d'expression artistique. Ça me paraît effectivement extrêmement intéressant. Mais ça pose une question assez fondamentale, je crois, qui est la question de l'aménagement du territoire. La question de l'aménagement du territoire, de l'aménagement culturel du territoire est assez fondamentale et ça, vous l'avez déjà souligné tout à l'heure que l'art et la culture étaient d'une certaine manière symbolisés par des lieux. Alors après, il ne faut pas limiter les manifestations culturelles au lieu institutionnel, mais malgré tout, c'est assez significatif que l'art et la culture se déroulent dans des lieux qui sont consacrés à cela. Et ici, le Merlan, mais la plupart des équipements culturels sont en centre-ville. Donc la question qui se pose aujourd'hui, au-delà de la démarche qui est proposée par la session Arcade, qui est de dire, puisque les lieux de culture sont au centre-ville, nous, on va aller avec des équipements mobiles dans les quartiers, c'est la question qui se pose, c'est la responsabilité politique de l'aménagement de la ville. Et est-ce qu'il est logique que dans une ville comme Marseille, la plupart des équipements culturels soient concentrés dans le secteur historique. C'est la même correspondance pour l'échelon national. Quand on parle d'aménagement culturel du territoire, est-ce qu'il est normal que la plupart des grands équipements culturels nationaux soient concentrés dans la capitale? Donc la question que je pose et que je vous invite à, sur laquelle je vous invite à réfléchir, c'est l'aménagement culturel du territoire. Et est-ce qu'on peut se satisfaire, même si l'intention est louable et extrêmement intéressante, de galeries mobiles, de containers dans lesquels on va proposer des petites formes forcément est satisfaisante pour la diffusion culturelle sur un territoire comme celui de Marseille.
Qui veut répondre ?
Moi, je voudrais faire du politiquement correct, parce que je suis pas tout à fait d'accord avec mon vice-président. Mais non, sur un point, je pense que le phénomène qui vient d'être décrit, ça participe aussi à ce qu'on appelle le phénomène de gentrification. Bon, c'est un terme un peu barbare, mais on voit bien que de toute façon... Il y a des phénomènes, alors je ne sais pas s'ils sont inexorables, mais en tout cas, ils sont constatés systématiquement qu'il y a dans la diversité urbaine des concentrations sur des territoires où, en effet, il y a les lieux d'art et de culture, que ça correspond à une catégorie sociale. La culture, elle est attractive pour le développement de certaines villes. les élus, les politiques s'en servent, et d'ailleurs ils ont bien raison, mais je veux dire que les lieux de culture n'échappent pas au fait qu'il y a des projets d'aménagement du territoire qui, de toute façon, à l'arrivée, on voit ça dans toutes les villes. Alors, à Marseille, c'est un peu particulier parce qu'il y a des poches de pauvreté qui sont plutôt dans le centre. D'habitude, c'est plutôt à la périphérie. Mais le fait que les lieux d'art et de culture, et notamment institutionnels, soient concentrés dans les centres et aux endroits où il y a une culture plus bourgeoise ou plus bobo, on le constate, c'est vrai partout. Ce que je veux dire, la seule chose sur laquelle je ne suis pas forcément tout à fait d'accord, c'est qu'en fait, on a quand même des idées reçues sur certaines choses. Enfin, on les a tous. Et il y en a notamment une que l'expérience du Merlan nous a montré qu'elle était justement une idée reçue. C'est que quand le Merlan n'avait pas de lieu fixe, et que donc on a vagabondé dans la ville, au départ, tout le monde nous a dit que la fréquentation et l'image qu'un lieu pouvait avoir était complètement due au fait qu'il ait un bâtiment géographique. On voit bien à Marseille, il y a le public du Théâtre de la Criée, le public du Gymnase, et on croit que la venue à un spectacle, pour prendre l'image d'un spectacle, mais ça peut être aussi des arts plastiques, etc., c'est conditionné au fait qu'il y a un lieu, un bâtiment physique, géographique, et que les gens associent la programmation, l'identité artistique de ce lieu, et ce qui va déclencher la venue donc du public, au fait qu'il y a un bâtiment. Et on a vu que c'était quand même pas tout à fait vrai avec le vagabondage. Ce que je veux dire par là, c'est que on est trop dans ces frontières entre un art légitime, alors qui va être présenté dans des containers ou dans des lieux institutionnels, et puis de l'autre côté des formes de culture populaire. Je pense qu'en fait les deux peuvent se rassembler, c'est-à-dire que je pense que des lieux de vie, des espaces de la ville peuvent tout à fait résonner avec les artistes, et là on brouille un peu les frontières d'un lieu, pas un lieu, d'une culture légitime, pas légitime.
Je vous propose qu'on revienne tout à l'heure sur cette idée de gentrification qui est évidemment très intéressante et incontournable. Mais peut-être pour continuer à cette proposition de Jean-Claude Groussard sur l'idée de politique culturelle, d'aménagement du territoire, comment intervenir dans la ville. Boris Crézillon.
Oui, moi je rejoindrais ce que... Je vais répondre à votre question, mais en rebondissant sur les propos de Nathalie Marteau, parce que... Finalement, on en arrive effectivement à des histoires de politique, mais à la base, c'est quand même très intéressant de constater qu'effectivement, contrairement à ce qu'on pense, eh bien, même un théâtre institutionnalisé, même une scène nationale, peut sortir de ses murs sans perdre son public, et peut-être au contraire, en fidélisant d'une certaine manière au fil de ses vagabondages un autre public, qui sinon ne serait pas venu au théâtre. Ça me rappelle aussi une autre expérience à peu près... à peu près similaire, qui a été menée, eux c'était contraint et forcé, par le Festival de Marseille, qui est quand même le grand festival de Marseille, donc de danse essentiellement, qui a été un festival itinérant, hein, qui a été à la Vieille Charité, ensuite qui a été obligé de se déplacer à
du Ballet National.
C'est ça, du Ballet National de Marseille, et puis sur le Born, sur le J4, et puis sur un immense hangar, le J1, je crois, et aujourd'hui, bizarrement, enfin de manière tout à fait inattendue, à la salle Vallier. Et je trouve que c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça déplace complètement les codes à la fois artistiques et géographiques de l'art. Et c'est là où je rejoins la question effectivement de la politique, parce qu'à partir du moment où il y a déplacement des codes, de toute façon, c'est perturbateur. Et vous savez bien que les politiques culturelles, en général, hein, 90%, n'aiment pas ce qui perturbe l'ordre établi. C'est-à-dire ce que ça dit Nathalie Marteau, le théâtre doit se faire dans les murs et pas hors des murs. Il me semble qu'aujourd'hui, notamment dans une ville comme Marseille, qui regorge quand même de lieux ou d'espaces publics où on peut justement vagabonder, il me semble que le rôle d'une politique culturelle, si j'ose dire, digne de ce nom, ou disons au moins peut-être visionnaire, ce serait d'accompagner beaucoup plus que c'est le cas, même s'ils le font. Enfin, Nathalie Marteau a pu vagabonder, Apolline Quintran a pu aussi changer de lieu, donc directrice du Festival de Marseille. Mais je pense qu'on peut aller bien au-delà. Et presque, alors y compris dans le cas de Marseille-Provence 2013, presque présupposer que dans une ville comme Marseille, il y a du bon, il y a quelque chose d'intéressant, à faire en sorte que l'art vagabonde.
le point de vue des habitants, des habitantes et des spectatrices, justement, sur cette question. Pour vous, les lieux de culture dans la ville, la culture dans la ville, plutôt, ce sont des lieux ou ce sont des moments de rencontre dans des lieux très, très diffus?
Alors moi, je pourrais rajouter aussi que le fait que la culture se déplace dans la ville, ça peut valoriser certains lieux. Je pense aussi donc au projet qu'il y avait eu avec le théâtre du Merlin sur Marius, donc qui s'était fait en extérieur, donc sur un milieu naturel. Donc valoriser ces espaces-là pour pouvoir aussi donc les gens se déplaçant sur ces différents lieux découvrent peut-être des lieux qu'ils ne sont pas habitués à rencontrer. Donc ça fait aussi bouger les populations, faire venir les personnes du théâtre du Merlin dans d'autres quartiers ou sur d'autres lieux. Et je pense que c'est ça aussi la culture, c'est arriver à faire rencontrer différents publics sur ces espaces-là.
Bonjour, je m'appelle Caroline, donc j'habite Marseille et donc j'écoute depuis tout à l'heure, mais en fait je voulais ajouter quelque chose qui me semblait important, c'était que en fait le rapport à l'espace, il n'est pas inné. Et souvent, il est culturellement construit. Ça veut dire que selon là où on a grandi, on fréquente pas les mêmes endroits et on n'a pas les mêmes usages de l'espace. Et que selon là d'où on vient, il y a des endroits où on va même pas penser à y aller, en fait. Et j'ai écouté ce que disait Fatima. Je suis médiatrice culturelle, en fait, dans des musées. Enfin, j'interviens ponctuellement dans des musées. Et il me semblait qu'en fait, ça s'apprend, en fait, le rapport à l'espace. C'est vraiment culturellement construit. Et je pense que... Enfin, je m'éloigne peut-être un peu des politiques, etc., mais je pense qu'il y a vraiment un rôle dans l'éducation à l'usage des espaces culturels, en fait. Et que je pense que c'est bien qu'il y ait une offre super. Enfin, moi, j'en profite beaucoup, mais je pense que c'est parce qu'on me l'a appris. Et moi, c'est vrai que dans le travail que je fais, j'essaye aussi de montrer aux enfants, aux jeunes, qu'il y a des choses à faire, qu'il y a des endroits dans lesquels on peut aller, etc. Je pense que c'est vraiment important.
Le rapport à l'espace, le rapport à la culture, il n'est pas inné, il se construit. Autrement dit, on découvre une ville. Et on va peut-être proposer maintenant à Yves Delisle, du collectif Berlin, de nous dire comment est-ce qu'il a approché ces villes qui font partie du dispositif Holocène. Comment vous faites pour aborder une ville, qu'elle soit gigantesque comme Moscou ou minuscule comme Bonanza? Quel type d'approche vous avez par rapport à ces villes?
Du début, on a fait le choix de travailler une année ou une année et demie sur un projet. Donc c'est un peu plus longtemps qu'un spectacle où normalement, je répète 2 mois et c'est 2 mois en tournée, c'est ça. Mais ici, on a vraiment choisi de rester sur ce projet une année. C'est-à-dire que nous lisons, nous parlons pendant deux mois. Et après, il y a 2 mois de tournage en été et en hiver dans ce ville-là. Et là, c'est vraiment le choix aussi de parler avec, des gens choisis. Il n'y a pas des interviews dans la rue. Parce que pour nous, la ville, c'est vraiment notre texte. C'est comme un metteur en scène, il choisit son texte. Pour nous, c'est notre texte. Donc le texte doit être bon. Bien, bon.
Oui.
Bon.
Intéressant pour un artiste, la ville, ça n'est pas un décor pour sa création, mais on voit bien que pour le collectif Berlin, c'est l'œuvre elle-même, c'est cette ville. Alors, Iqaluit, Moscou, Bonanza, Jérusalem, pourquoi pas Bruxelles?
Parce que c'est trop proche, je crois. Vraiment, il n'y a pas de distance. C'est très important de... que j'ai remarqué pendant ces années à Jérusalem, au Pôle Nord, ou à Bonanza, ou à Moscou, c'est que tu entres la ville avec des stéréotypes dans la tête, comme chaque touriste ou chaque personne qui entre la ville pour la première fois. Et après des semaines, je suis toujours sûr que c'est pas vrai, ces stéréotypes. Et après 2 mois, je suis sûr qu'ils sont vrais. C'est stéréotype, mais ils sont plus... je connais pas le mot en français. Tu connais plus les détails, les raisons des stéréotypes. C'est très remarquable, je crois.
Et est-ce qu'il y a des villes qui t'inspirent plus que d'autres? Est-ce qu'il y a par exemple des tentatives d'exploration d'une ville que vous projetiez, sur laquelle vous projetiez de travailler, puis finalement vous avez abandonné ce projet parce que ça ne fonctionnait pas? C'est quoi une ville qui fonctionne avec un projet artistique et d'autres qui ne fonctionnent pas?
Il va être quelque chose dans la ville qui raconte plus que la ville elle-même. C'est-à-dire, il doit être... Par exemple, Bonanza, on était là, il n'y a que 7 habitants à Bonanza, mais il y a le maire.
Une mairie.
Une mairie. Et un conseil municipal avec, pour 7 habitants. Et ces 7 habitants, ils se détestent. Voilà, ça c'est le... Donc, et là, c'est vraiment un paradis. Bonanza, pour y vivre, c'est un paradis. C'est incroyable. C'est les Rocky Mountains. Et là, bien sûr, il y a quelque chose d'universel. C'est pour ça qu'on a joué Bonanza dans 17 pays. Pourquoi est-ce qu'on a joué Bonanza à Corée, par exemple? Parce qu'apparemment, il y a quelque chose chez les habitants de Corée.
Les Coréens.
Les Coréens. Quelque chose qu'ils reconnaissent. Et c'est ça que nous cherchons dans les projets. Et c'est pour ça que Bruxelles, je crois, pour nous, pour l'instant, je peux dire que c'est trop compliqué, mais il n'y a pas cette distance d'un regard ouvert.
Nathalie Marteau, je posais bien sûr cette question à Yves de Gries, puisque le collectif Berlin, malgré son nom Berlin, est originaire de Bruxelles. Nathalie Marteau.
Oui, c'est que ce que dit Yves me fait penser que... En fait, on est tous réunis là aussi avec l'idée qu'on peut porter sur la ville, en dehors des observations, des géographes très normés, avoir une approche plus croisée ou plus sensible de la ville. Et c'est vrai que ce que dit Yves, et quand on voit le travail, donc le portrait de ces quatre villes, on sent que, en fait, l'approche de l'artiste peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on a l'habitude de dire sur les rapports entre l'art et la ville, c'est-à-dire que ça peut devenir un véritable outil d'observation, de compréhension. Et ça, je trouve que c'est ça qui me frappe dans le travail, que je redécouvre et que je trouve assez remarquable. Et donc on pourrait se dire à quels endroits justement les artistes peuvent intervenir dans l'appréhension, dans l'observation de ce qu'est une ville, parce que quand on voit les quatre portraits, ce qu'on comprend, et c'est ça l'art d'ailleurs, c'est que l'impact esthétique, puisque c'est des œuvres, il peut être aussi fort, voire plus fort, que des analyses ou des discours. Et ça, je trouve que c'est intéressant de le prendre en compte. Et comment on peut le prendre en compte? Parce que ça, c'est de l'observation, c'est des outils d'exploration, mais en effet, c'est pas des livres. C'est pas non plus du documentaire,
c'est un objet hybride, c'est un objet dans lequel la réflexion n'est pas contraire ou opposée à la sensibilité. Et peut-être revenir sur cette question avec Boris Grésillon, sur la manière dont la géographie tente de rejoindre le domaine culturel, dont les artistes tentent aussi de s'emparer des sciences humaines, des sciences du monde. Sur cette idée nouvelle en géographie de cartographie sensible, de carte mentale, de nouveaux espaces subjectifs de la géographie, Boris Grésillon.
Oui, moi je pense que j'ai la chance de vivre un moment important, en tout cas intéressant dans ma discipline, qui est un moment de croisement finalement, où on se rend compte qu'effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait Nathalie Marteau, à savoir que le géographe, qui est d'abord un chercheur, a tout intérêt non seulement à faire son boulot, si j'ose dire, c'est-à-dire à lire, à observer, à faire des enquêtes de terrain, à produire éventuellement des cartes ou des données, mais aussi, et c'est ce que je m'efforce de faire, à écouter l'artiste, sans l'idéaliser. C'est pas ça, mais tout simplement parce que, et c'est le cas avec le collectif Berlin, et moi je plaide pour cette démarche sensible, les artistes ont énormément de choses à nous apprendre. Parce que tout simplement, ils ont une façon qui est la leur, qui est très subjective, qui est sensible de voir la ville, qui, moi, m'a toujours fait, alors c'est terrible de dire ça, mais qui m'a souvent, en tout cas, fait plus progresser que certains ouvrages savants que j'ai pu lire. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire qu'il faut remplacer la méthode classique de la géographie par cette méthode sensible et quand même... exploratoire. Mais je pense que les deux démarches, disons savantes d'un côté et exploratoires de l'autre, se nourrissent. Et pour revenir à votre question, plus précisément, effectivement, ce qu'on appelle, nous, la cartographie sensible, qui peut prendre la forme de ce que les Américains ont appelé les mental maps, c'est-à-dire les cartes mentales,
C'est très intéressant parce qu'en fait, on ne s'en rend pas compte, mais tous autant que nous sommes, enfin, l'être humain a des cartes mentales dans la tête qui lui permettent de se repérer, ou pas d'ailleurs, dans un territoire. Et c'est très simple en fait comme méthode de travail, c'est une méthode parmi d'autres hein, des géographes. Au lieu de dire à quelqu'un, comme faisait Saint-Exupéry, et dire au petit prince « dessine-moi un mouton », on lui dit « dessine-moi ton territoire ou ton quartier ». Et en fait, c'est pas évident. Moi, je me suis moi-même prêté à l'exercice sur Marseille, et le résultat était pas fameux, je dois dire. Mais ce qui prouve que j'avais une vision finalement floue, vague, confuse de Marseille, que je n'arrivais pas à la dessiner. Et à partir de là, bon, au-delà de l'aspect ludique, nous, les géographes, on a des outils qui nous permettent de décrypter, de décoder ces fameuses cartes mentales en disant, voilà, telle personne va mettre plus l'accent sur des repères dans la ville, telle personne s'oriente effectivement en fonction d'axes, donc éventuellement c'est quelqu'un qui pratique l'automobile, etc., etc. Donc on a une lecture, j'allais dire, scientifique d'un matériau sensible. Et je termine en disant que Nathalie Marteau a eu la bonne idée, je crois que c'était... Ben justement, elle a eu l'idée d'illustrer ses vagabondages par un livre, qui est en fait un livre de cartes, qui s'appelle déjà comment, Nathalie ?
Que reste-t-il ? Voilà, que reste-t-il ? C'est l'allusion à la chanson... Que reste-t-il de nos amours ? Et là, c'était que reste-t-il de nos vagabondages, enfin, par les gens, donc du public.
Et c'est un matériau que j'ai moi-même utilisé, y compris dans ma thèse, parce que à la fois les artistes et les habitants produisent finalement des cartes, mais alors des cartes qui sont surtout vraiment pas celles de l'IGN ou des cartes Michelin, qui sont leurs cartes à eux, sur la base du spectacle qu'ils ont vu, et donc du territoire environnant, et c'est extrêmement intéressant.
Les cartes, et puis ce qu'elles révèlent, les cartes aussi, ce qu'elles ne montrent pas de la ville. Toute carte est par nature incomplète. Et notamment, ce qu'elles ne montrent pas, ce sont tous ces délaissés, tous ces interstices, tous ces espaces dans lesquels la ville se fait sauvage. Précisément, Agnès Kayser, c'est peut-être ces espaces-là de la ville qui vous intéressent le plus.
Oui, tout à fait. On se rend compte lors de nos interventions en milieu scolaire, lors de centres d'animation, qu'en travaillant beaucoup avec les publics enfants, que les enfants ne connaissent pas leur territoire et ne connaissent pas le terrain vague qui est à côté, ou s'ils le connaissent, ne se rendent pas compte de la diversité qui peut être présent sur ce territoire-là, en parlant de faune, parlant de flore. Et c'est vrai que lorsqu'on travaille à mettre un petit jeu de piste au cœur de la cité, lorsqu'on leur fait découvrir les espaces naturels aussi qui bordent notre ville et qui sont assez exceptionnels pour une grande ville comme Marseille, on se rend compte qu'ils sont émerveillés par ces espaces-là, pour l'importance étant qu'ils s'en rendent compte, pour qu'ils puissent aussi le protéger. Et lorsqu'on discutait aussi sur l'aménagement du territoire, lorsqu'on aménage le territoire, évidemment, les futures personnes qui seront présentes et habitants de ce territoire mieux connaîtront ces espaces et mieux pourront protéger ces espaces qui sont indispensables aussi pour les habitants d'une ville. Même culturellement aussi parlant, qui sont vraiment indispensables, lieu de rencontre, lieu d'échange,
Lieu d'échange, lieu de rencontre au travers de ces espaces naturels ou de ces espaces de la ville sauvage, mais aussi propositions artistiques. On a évoqué tout à l'heure brièvement l'idée de gentrification. Je voudrais maintenant, on arrive presque au terme de cette conversation, qu'on l'aborde pour de bon. Parfois, les habitants d'un quartier voient tout à coup apparaître des artistes avec un projet, parfois de manière très construite, et parfois un petit peu comme la pluie du matin. Peut-être ces artistes peuvent parfois apparaître comme des intrus. Alors peut-être sur cette façon dont les habitants ici alentour, dans la cité des Flamands, dans les cités qui bordent le théâtre du Merlan, ont vu arriver les vagabondages justement du théâtre, ces artistes qui débarquaient. Pour vous, c'était des intrus. Comment se construisait la relation, Fatima Mostefaoui?
Moi, j'ai eu la chance d'avoir la culture en étant jeune. Donc, quand il y avait des artistes qui arrivaient dans le quartier, c'est vrai que je les abordais parce que je savais très bien ce que c'était. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, à notre époque, l'artiste, il va peut-être jouer sur la place des Flamands et que personne ne va venir parce que ça sera quelqu'un de plus dans le quartier qui vient faire une animation et qui va... ils vont peut-être pas comprendre ou ils vont pas savoir ce que c'est. Et je voulais revenir sur ce qu'elle disait Caroline tout à l'heure. l'heure, c'est que au niveau de l'éducation, c'est à la primaire ou à la maternelle qu'on apprend aux enfants à aimer la culture et ensuite de la transmettre, parce qu'on sait très bien que c'est les enfants qui transmettent à leurs parents. Moi, je sais que ma mère a jamais été sur une scène. C'est moi qui l'ai fait rentrer au Théâtre du Merlan pour nous voir jouer. Donc je pense que c'est les enfants qui mènent les parents à la culture. Et dans nos quartiers, la culture ou l'approche de l'artiste, elle se fera plus facilement si on passe par les écoles ou par les centres sociaux, ou par les centres d'animation, pour que les enfants apprennent à leurs parents, parce qu'on a besoin. Je ne veux pas dire que les gens dans nos quartiers sont bêtes, mais ils sont tellement dans leurs problèmes et dans leurs soucis de tous les jours, parce qu'on a énormément de soucis dans nos quartiers. Donc il faut que ce soit les enfants qui mènent les parents à la réflexion et à la culture. Je pense que, et dans nos quartiers, les artistes, ça dépend des quartiers, parce que je sais que la Bucherine, ils ont la culture des artistes, et que nous, en Flamand, on a une autre culture que l'artiste. Mais je reviens encore sur la culture et l'éducation. Si on arrive à éduquer dans l'éducation, à apprendre à nos enfants la culture et l'ouverture d'esprit, ils arriveront à... Le Théâtre du Merlan, demain, sera plein de gens de nos quartiers. Pas des écarts qui viennent, qui ramènent des gens pour les déposer pour un spectacle et que nous, on se sent pas concernés par ce qui se passe.
Culture, éducation, pourrait peut-être même rajouter médiation pour rendre plus évident, plus actif ce croisement entre l'urbain et culture. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Claude Groussard?
Oui. Si tout à l'heure j'ai parlé d'aménagement culturel du territoire, rassurez-vous, je vais...
Parlez bien fort,
s'il vous plaît. Je ne vais pas y passer la matinée, mais c'est pour dire que le travail de fond qui peut se faire dans les quartiers se fait à partir de bases. Et les bases, c'est le Théâtre du Merlan, c'est le Théâtre de la Gare Franche, c'est des structures constituées qui sont implantées sur un territoire. Et si les artistes peuvent aller dans les quartiers, travailler dans le cadre d'ateliers avec des écoles, avec des associations, etc., c'est à partir d'une base. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste beaucoup sur la nécessité de créer ces bases quand elles n'existent pas. Et il faut bien reconnaître que dans les quartiers nord, ces bases sont rares. Alors, je salue le travail que va faire l'association Arcade, puisque vous avez parlé tout à l'heure d'ateliers qui vont accompagner les galeries mobiles. Ça, c'est un travail de fond. Ce travail de fond va se faire forcément de manière temporaire tant que le conteneur sera là sur place comme point de repère du travail qui va se faire avec les enfants ou avec la population. Donc j'insiste sur ce point-là, il faut des bases pour pouvoir irriguer le territoire ensuite et travailler avec les associations et avec les écoles.
Le temporaire et le pérenne, Guillaume Calas.
Oui, mais après, il faut voir aussi que je suis complètement d'accord avec vous là-dessus. De toute façon, c'est vers ça, vers quoi il faut tendre. Mais c'est dur d'avoir une base sans expérimentation, parce que du coup, on a affaire à, derrière, une politique un petit peu frileuse aussi d'installer peut-être ou d'investir un lieu culturel dans certains secteurs. Maintenant, l'intérêt, il est, je reviens par rapport aux citoyens qui, effectivement, ne doivent pas ignorer son cadre de vie. Et surtout bien comprendre les enjeux de la société et d'aborder justement cela comme un atout. Et justement l'interdisciplinarité artiste, architecte, paysagiste, qui du coup vont leur amener un certain regard sur cet environnement-là, c'est une manière aussi de les familiariser, comme tu disais, avec leur contexte, avec leur environnement immédiat, et leur montrer ce qui se passe des fois juste tout à côté d'eux et qui a effectivement de la valeur. Et pour revenir sur la relation art, ville et architecture, tous ceux qui sont, on va dire, plus ou moins engagés dans la fabrique de la ville savent que l'épaisseur saturée et multiple de la ville est l'œuvre collective par essence. Et qu'on ne peut pas la représenter en son entier.
C'est un organisme autonome qui a sa propre respiration, la ville, et donc elle est insaisissable en une seule approche. Donc l'acte de vagabondage et du rapport avec l'artiste, il s'agit pas de faire des commandes d'art culturel ou de type 1% dispersées dans les différents bâtiments, mais bien de l'artiste dans ce qu'il peut amener par l'art initial en se coltinant justement à la matière urbaine au corps et pour montrer les potentialités d'un art contextuel dont on pourrait s'inspirer en tant qu'architecte ou paysagiste aussi, quoi.
Le mot de la conclusion, on va peut-être le donner à Yves de Grise. Pour rebondir à ce que disait à l'instant Guillaume Callas, les villes, on n'arrive jamais à les cerner complètement, à les représenter complètement. Tu partages ce sentiment, l'approche, elle est toujours, au fond, un peu fragmentaire de la ville, jamais totale, globale.
Même pour nous, c'est pas, on n'a jamais l'impression que c'est... Enfin, nous disons c'est un portrait de ville, mais c'est notre portrait de ville, donc c'est... C'est bien compliqué, par exemple, quand Moscovite vient à Moscou. Le spectacle à Moscou, je veux dire. C'est toujours comme quelqu'un entre... Comme moi, j'entre sa maison pendant mon spectacle. Donc c'est un peu compliqué dans la tête à ce moment-là. Et une autre chose, c'est ce terme de fragmentaire ou pas complet ou identité d'une ville. C'est quelque chose que je ne comprends pas. Parce que je ne comprends pas c'est quoi l'identité d'une ville, parce qu'il y a ses frontières, mais ses frontières par des raisons historiques. Je ne veux pas dire que c'est hasard, mais c'est quoi l'identité? Je ne comprends pas. Mais peut-être que c'est parce que je suis flamand que je ne comprends pas ça.
On a aussi nos histoires d'identité en France. Ça intéresse beaucoup l'Élysée en ce moment, l'identité nationale, mais on aurait pu aussi s'interroger sur l'identité municipale, pourquoi pas, ou régionale, qui ont tout autant d'intérêt à être étudiées, mais qui en même temps montrent bien leurs limites. L'identité, évidemment, elle est multiple, elle est plurielle. On a vu au tout début de cette discussion que c'était ce qui faisait la ville, justement, cette diversité, cette pluralité de ses habitants et de ses cultures. Pluralité aussi des points de vue pour cette conversation perchée. Merci à tous et à toutes d'y avoir participé. Je rappelle que le collectif Berlin est à Marseille, avec Icalwit à la Bourse, Bonanza et Jérusalem à la Friche, Moscou devant la mairie. Nathalie, si je peux me permettre...
Devant la major. Il y a la séparation de l'Église et l'État.
Oui, non, mais je trouvais Moscou devant la mairie assez drôle, et globalement quand même les emplacements des représentations très judicieusement choisis. Voilà. Bonanza et Jérusalem à la Friche, par
Moscou.
Exemple.
Au pied de la cathédrale, ça paraissait naturel.
En tout cas, c'est jusqu'au samedi 23 octobre, aujourd'hui, ce soir. Donc précipitez-vous pour voir encore les propositions du collectif Berlin. Toute la programmation du Théâtre du Merlan est sur son site www.merlan.org et vous pouvez réécouter cette émission sur le site de Grenouille www.grenouille88.org. Merci à tous.
Merci.